6h02, nous sommes mercredi 19 décembre. Bonne journée, bienvenue à l'antenne du 98.5 FM. Ce matin, pas chaud, moins 10 degrés, mais avec un ciel généralement dégagé. Et on prévoit pour aujourd'hui du soleil, des nuages, donc une assez belle journée avec un maximum de moins 2 degrés. Dégagement ce soir autour de moins 5 pour la nuit. Demain, jeudi, c'est du soleil, pas mal toute la journée, quelques nuages en après-midi. Et plus confortable, maximum autour de zéro. Et là, c'est en soirée, surtout durant la nuit, qu'on a de la pluie verglaçante intermittente de prévu. Et il y a un bulletin météo spécial qui est émis par Environnement Canada qui décrit le phénomène. Ça nous arrive du golfe du Mexique, une dépression. Et donc, pluie verglaçante durant la nuit. Pour ce qui est de la journée de vendredi, pluie verglaçante aussi, ou encore de la pluie, parce qu'on prévoit un maximum de 6. C'est sûr qu'il va y avoir des précipitations. La forme exacte va varier durant la journée et selon la région où vous êtes, parce que ça va se déplacer au cours de la journée de vendredi vers le centre du Québec. Donc, possiblement qu'à Montréal, on va avoir de la pluie verglaçante durant la nuit, peut-être durant l'heure de pointe vendredi, et que par la suite, ça va se transformer en pluie, mais des pluies qualifiée quand même d'assez abondante. Alors, c'est vraiment ce temps qui est prévu pour vendredi. Samedi, c'est de la pluie, c'est venteux, c'est un maximum de 3 degrés. Et dimanche, dans ce qu'on pourrait appeler la période de préparation de Noël, on prévoit du soleil moins 3. 24 décembre, c'est du soleil moins 6 avec quelques nuages. Et pour la journée de Noël, très beau, moins 7 degrés du soleil. Donc, pas de neige, pas de précipitation, sauf la pluie qui est prévue pour la journée de vendredi. Commençons ce matin par le nouveau pont Champlain. On sait qu'il y a un événement de presse qui aura lieu tôt ce matin pour donner les derniers détails concernant le pont. On sait, c'est confirmé, que le pont va s'appeler tout simplement Samuel de Champlain. Donc, ce sera le nom officiel et qu'on est en train de finaliser, je dirais, le défi assez incroyable de compléter cette structure. Bon, on sait déjà que le pont devait être en principe livré ces jours-ci, que pour des raisons techniques, on a décalé de quelques mois, probablement autour de juin, la date finale de livraison. Et c'est tant mieux, parce qu'on a tous le même réflexe. On a hâte que ce soit fini, on a hâte de pouvoir l'emprunter, mais en même temps, on veut que ça soit bien fait puis qu'on n'ait pas à reprendre des travaux. Donc, ce n'est pas quelques mois de plus qui vont faire la différence, mais au moins c'est clair. Et la presse ce matin qui est allée visiter la structure nous montre quand même des images assez impressionnantes. Parce que entre les deux rives, si vous voulez, pour compléter la structure du pont, il y a comme un décalage de 60 cm. Et là, quand tu vois ça, tu te dis « Hey, ça n'arrive pas égal, c'est quoi ça? » Tout à fait normal, disent les ingénieurs. Et que progressivement, on va réduire cet écart-là. Et déjà, on a amorcé des opérations. Et que c'était donc prévu, que c'était planifié. Et on va voir toute la journée ces images qui vont défiler du pont Champlain. Quand vous passez à côté, que vous avez l'occasion de regarder, et surtout depuis le début, c'est assez phénoménal comme travail de voir tous ces ouvriers. Il y en a quoi, 1600 qui ont œuvré. Et avec un paquet de complexes, d'effets complexes à maîtriser, c'est-à-dire, évidemment, c'est un pont, il y a la météo, le fait qu'on a dû ajuster les méthodes de construction et de livraison du matériel parce qu'il y a eu des contraintes énormes. Donc, pas simple, pas facile, mais en plus d'être, disons, complexe à bâtir, quand tu regardes un pont comme celui-là, il est magnifique. Et des fois, il y a des structures, tu regardes ça, tu dis c'est affreusement laid, mais le pont, il est très beau et on a hâte, évidemment, de pouvoir, dans quelques mois, rouler dessus. Donc, il y aura point de presse aujourd'hui pour donner l'ensemble des détails concernant les installations des derniers éléments de la structure pour que ce soit complété. Deuxième nouvelle, je pense que c'est important, c'est Santé Canada qui a annoncé hier qu'on va faire une consultation, mais on va modifier le règlement sur les aliments et drogues pour, évidemment, réduire les effets négatifs des boissons alcoolisées, sucrées, purifiées, aromatisées, prenez le mot que vous voulez, parce qu'on le sait que, évidemment, ces produits-là sont nocifs. Et surtout, la nouvelle, c'est qu'ils ne pourront plus contenir l'équivalent de 4 consommations d'alcool par canette. Et on se souvient des cas de gens qui se sont intoxiqués. Il y a aussi Athéna Gervais, une adolescente de 14 ans, dont le corps a été retrouvé dans un ruisseau près de son école secondaire à Laval en mars dernier. Elle en avait consommé. Dans quel contexte? Ça demeure flou. Hier, je voyais en faisant une revue de presse le cas d'un jeune homme qui, lui, en prenait 2-3 par jour, puis il s'est ramassé avec une cirrhose, puis une greffe de pancréas. T'sais, un jeune homme, là. Puis d'autres cas de jeunes qui se sont retrouvés dans les salles d'urgence, intoxiqués suite à la consommation, compte tenu de la forte concentration d'alcool. Donc, on va modifier, selon la grosseur du contenant, le pourcentage d'alcool, donc des limites importantes pour éviter comme ça que des gens puissent s'intoxiquer. On va parler avec un médecin qui est un toxicologue médical au Centre universitaire de santé McGill. Puisqu'on parle de santé, ça fait déjà quelques jours qu'on a des chiffres là-dessus, mais ça se confirme, le taux d'occupation dans les urgences de la Montérégie demeure très, très élevé. La presse dit ce matin qu'à l'hôpital du Suroît, c'était 300%. À Châteauguay, taux d'occupation de 226% à l'hôpital Anna-Laberge. Et depuis un mois, ça augmente sans cesse. Et c'est en Montérégie qu'on a le taux le plus élevé. Alors, on sait qu'on a aussi annoncé du côté du gouvernement des modifications concernant le futur hôpital. Il y a un besoin réel dans Vaudreuil-Dorion. Ça fait des années que les gens attendent ça. Ça a été annoncé par l'ancien gouvernement. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a une forte augmentation de la population. Et ça, on n'en parle pas assez souvent. L'ajustement des services d'urgence, des services de santé dans des secteurs où il y a des booms de population. Et parler aux gens d'urgence santé quand faut couvrir des secteurs ou même des paramédics de d'autres compagnies. Par exemple, si vous prenez Terrebonne, Mascouche, Repentigny, alors que les populations explosent, c'est pas vrai qu'il y a un ajustement. Et pourtant, le besoin est là. Et dans le cas du service de santé, vous en avez un exemple. Et juste pour illustrer, j'ai reçu un courriel au cours de la nuit. Je pense que ça va mettre un peu un visage humain quand on donne des 225 puis 226 d'occupation puis d'attente. Là. C'est quelqu'un qui m'écrit qui est à l'hôpital avec sa petite fille. Rien de majeur. Elle n'a pas de douleur, mais elle ne va pas bien, tu sais. Alors, il disait pas de trouble. Il dit, moi, je sais que je vais attendre. Je sais que ça va prendre des heures et que finalement, on va probablement, ma conjointe et moi, devoir passer la nuit là. Puis après, il m'écrit à 3 heures du matin. Et il dit, moi, je peux me permettre de ne pas travailler aujourd'hui puis ma conjointe aussi. Puis là, ce qu'il me décrit, là, c'est une famille musulmane. Et toute la famille est là. C'est-à-dire le père, la mère, les 3 enfants, puis un petit gars qui a l'air très faible. Monsieur me dit, nous sommes arrivés à 20 heures avec une évaluation de l'attente à 7 heures. Eux étaient arrivés à 18h30. Ils viennent de partir à 3 heures du matin sans avoir vu le médecin, parce que le monsieur a pu échanger avec lui. Le père doit aller travailler parce qu'il ne peut pas manquer sa journée de travail. Et là, tout le monde a suivi parce que on devait vaquer aux occupations, s'occuper des autres enfants, l'école. Mettez tout ça ensemble. Il dit, j'ai honte de vivre dans un système comme ça. Il dit, quand t'entends constamment que le taux, en fait, l'attente, et le monsieur est au CUSUM, là, des annonces aux heures et demie pour nous dire que le temps est allongé. Il y a seulement un médecin maintenant qui est disponible à l'urgence. Il dit, je trouve ça invraisemblable. Là, on comprend qu'on n'est pas face à un cas de vie ou de mort, mais tu sais, imaginez-vous maintenant, là, pour les gens là, qui sont cordés dans les hôpitaux de la Montérégie. On va aller retrouver Marc, 6h12. Ça roule comment, mon cher ami? Merci. Journal de Montréal ce matin, à la une, là, on nous explique comment la baisse des taxes scolaires profite aux riches. On se met à regarder ça plus en détail. On sait que le gouvernement Legault va réduire, va rendre, dit-il, équitable les taxes scolaires au Québec parce qu'il y a des disparités. Et que ça va coûter environ 700, 800, 900 millions. Ça, c'est l'estimé. Donc, au gouvernement. à peu près tous les Québécois, enfin, fort pourcentage de Québécois vont bénéficier d'une baisse de la taxe scolaire. Parce qu'il y a des endroits où vous payez plus cher, puis des endroits, c'est peut-être plus bas. Donc, on va rendre ça plus équitable, disent-ils, d'une région à l'autre du Québec. Et là, on nous explique ce matin que les ministres riches du gouvernement vont avoir des baisses de comptes de taxes scolaires, que la famille Desmarais va également voir son compte de taxes scolaires baisser. Le domaine Sagard, qui vaut 60 millions, bon, ils vont sauver une fortune en taxes scolaires. Ils payaient 169 000, ils vont payer 57 000. Puis là, on parle des Bronfman. Puis bon, ben, c'est sûr que des gens qui sont riches puis qui ont des maisons qui sont évaluées très chères, et j'inclus M. Pelado, puis je sais pas, Mitch Garber, on peut nommer tous les millionnaires, milliardaires au Québec, c'est évident qu'ils vont profiter de la baisse de la taxe scolaire. Et là, on peut discuter du principe. C'est une bonne idée ou pas de réduire le compte de taxe scolaire, parce que les Québécois vont voir ce compte de taxe baisser en tenant compte de la valeur de leur propriété. Si votre maison vaut 250 000, 300 000, c'est sûr que c'est pas la même baisse que la maison d'un millionnaire, puis c'est sûr aussi que le montant payé avant n'était pas le même. Mais la taxe scolaire est sur la propriété. Puis tu ne fais pas une taxe spécifique pour des gens supposément plus riches, pas supposément, là, qui sont évidemment plus riches que les autres. Tout ça pour vous dire que moi, je veux bien débattre de la pertinence de ce 700 à 900 millions alors qu'il y a des besoins criants en éducation. Ça, c'est un débat intéressant. Pour le reste, c'est comme l'impôt, c'est quand tu mets une taxe, ben, c'est, tu ne peux pas ajuster. Okay, tu vas dire quoi, là, pour les maisons de telle valeur, ben là, on va rajouter une surtaxe. Je ne sais pas comment. En tout cas, mais tout ça pour vous dire que c'est vrai que ça profite aux gens fortunés, mais ça profite à l'ensemble des Québécois. Ça demeure aussi une question de choix de dire est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est justifié? Puis c'est un engagement de la CAQ de uniformiser les comptes de taxes et donc de faire en sorte que ça baisse à plusieurs endroits. Ensuite de ça, ce matin, recours collectif contre les témoins de Jéhovah. Ce sont des plaignants qui accusent les témoins de Jéhovah de ne pas avoir agi pour les protéger d'agressions sexuelles et la Cour supérieure va se prononcer quant à la pertinence d'un recours collectif. Ce sont d'ex-témoins qui disent avoir été agressés par des dirigeants ou d'autres membres dans plusieurs cas alors qu'ils étaient enfants. Ça a été déposé il y a plus d'un an. C'est une poursuite dans laquelle on demande 250 000 $ par plaignant en dommages moraux et punitifs contre la société mère des témoins de Jéhovah. Et donc, il y aurait des dizaines de poursuites du genre qui ont été intentées dans les dernières années aux États-Unis. Alors, c'est un dossier qui est à suivre. Aussi, ce matin, il y a des informations qui confirment là, qu'il y a un troisième Canadien qui a été arrêté en Chine. C'est confirmé donc par le ministère des Affaires étrangères dans le National Post. Par contre, on ne fait pas de lien avec les deux autres cas et ni avec l'affaire Huawei. Je ne sais pas c'est qui, on n'a pas le nom, on ne sait pas dans quel contexte, pour quelles raisons officielles, mais ça ne semble pas lié. Il faut toujours se méfier. On a affaire au gouvernement chinois. Les deux autres sont évidemment détenus. Et vous avez le grand patron de Huawei qui met au défi les Américains, le Canada et les autres pays, à prouver que ce géant de la Chine, en technologie, représente un risque pour la sécurité nationale. On sait que les agences de renseignement recommandent aux politiciens, aux élus, de ne pas s'en remettre à la technologie 5G de Huawei, que cette compagnie est, dans le fond, une espèce de bras de l'État chinois, et qu'on va venir s'approprier des connaissances, on va voler du matériel intellectuel, de la technologie, et qu'on va évidemment en faire profiter le gouvernement chinois. Et la Chine, à cet égard, est probablement la puissance la plus menaçante. Et là-dessus, Trump a parfaitement raison quand il dit que les Chinois s'approprient, pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde, des technologies, les adapte, s'ajuste et vous revendent ça avec un joyeux profit, sans compter la capacité d'espionnage également. Alors, lui prétend bien sûr que tout ça, c'est de la poudre aux yeux et qu'on ne doit pas évidemment, empêcher des investissements. Et on sait qu'au Canada, Huawei, en Amérique du Nord, là, mais parlons du Canada, tourne autour des universités à la recherche, disons, de technologie. Puisqu'on parle de recherche, il y a une étude qui montre que quand vous avez des douleurs chroniques, le médicament antidouleur qui existe, qui se vend là, librement, donc sans ordonnance, et prenons le cas de l'ibuprofène, pour juste donner un nom comme ça, ben c'est pratiquement aussi efficace que la prescription d'opioïdes. Là, je parle spécifiquement de maux chroniques, pas des gens qui ont une douleur là, en raison d'un événement précis. Alors, ça amène une réflexion inévitable sur le volume de prescription d'opioïdes. Est-ce que c'est toujours nécessaire dans le cas de gens qui ont des maux chroniques? Et cette recherche, qui est en fait un regard sur une centaine de recherches, montre que bien souvent, il y a possiblement trop de prescriptions avec les risques que ces prescriptions représentent. Tu sais, le médicament de base, que tu n'as pas besoin d'ordonnance, semble faire l'affaire dans bien des cas. Ce n'est pas nécessairement dans tous les cas. Rapidement, dans les autres manchettes de ce matin, d'abord dans Le Devoir, Justin Trudeau, qui n'est pas très, très heureux qu'on ait parlé d'énergie sale. On parle évidemment des propos du premier ministre Legault. Oui, il faut le dire aussi, il y a un investissement du gouvernement fédéral dans l'industrie pétrolière parce qu'on perd 80 millions par jour au Canada. Et M. Trudeau, donc, s'est engagé à soutenir l'industrie pour s'assurer que les ventes ne seront pas perdues. Alors, évidemment, vous pouvez deviner la réaction, entre autres au Québec, les groupes écologistes qui disent que ça n'a aucun sens de mettre autant d'argent dans l'énergie fossile. Ça vient comme ajouter au débat entre l'Alberta et également le Québec là-dessus. Il y a Nathalie Roy, qui est la ministre de la Culture, qui, dans une entrevue donc au Devoir, dit qu'elle promet une approche musclée concernant la loi 101. Alors, on verra ce que ça veut dire, mais notamment sur la question de l'affichage. Elle dit « Je crains qu'il y ait un recul de la langue française à Montréal. Quand je me promène et que je vois dans différents quartiers des commerces qui affichent uniquement dans une autre langue que le français, il y a un sérieux problème. » Et le visage linguistique a changé et j'ai l'intention d'agir pour qu'on respecte la loi. Alors, à suivre, et tantôt je vous parlais de recours collectif, il y en a un autre, c'est assez particulier, vous allez voir. On a eu comme un engorgement devant les tribunaux, puis quand il y a des gens qui sont arrêtés, pour les faire comparaître, on avait trouvé une technique, on était à l'automne 2016, donc parmi les mesures annoncées, c'est que tu arrêtes la personne, puis t'as fait témoigner par vidéoconférence. Puis là, t'as une certaine cadence, puis tu peux régler plus de dossiers. Sauf que pour ce faire, les gens étaient arrêtés, puis on donne le cas d'un monsieur qui est arrêté, faculté affaiblie, il est amené au poste de police, et pour sa comparution, on l'envoie, il y a deux endroits, c'est la prison de Bordeaux puis Rivière-des-Prairies, qui ont l'équipement là pour ça. Mais pour être admissible à la comparution en ligne, si vous voulez, ça prend une fouille à nu. Fait que le gars, il est arrêté pour conduite avec faculté affaiblie. Normalement, il aurait été mis en cellule, il aurait comparu le lendemain, puis, tu sais, promesse de comparaître, puis on revient. Ben non, toi, là, le gars, il se ramasse dans une petite pièce. Mettez-vous tout nu, monsieur. Puis là, c'est la fouille. Là, on parle pas ici de gens qui s'en vont en prison détenus, là. On parle de quelqu'un qui va juste comparaître, puis qui, et c'est le cas du monsieur, va sortir après. Alors, recours collectif en disant que c'était une procédure abusive. Convaincu de me recevoir des courriels de gens qui ont dû vivre ça. Tu dois faire le saut un peu, là, quand t'arrives, puis tout nu, mais tout nu, au complet. 6h22. Allons-y avec le Pont-Mercier.